tell you what freedom is to me. No fear.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée.
Liberté, liberté, qu'as-tu fait, liberté?
Liberté libre, bête et chérie, ce qu'on la thune, non que l'odeur.
Liberté, mon cul.
Liberté, liberté.
Libre comme le vent, j'ai mis les voiles, oui, j'ai tué l'impossible, ici, fille de l'étoile.
Liberté.
La solution du qui suis-je de la semaine dernière était la saponaire officinale. Je suis héliophile. Hélios en grec, c'est le soleil. Phil, ça vient de philo, qui veut dire j'aime. Je vous laisse deviner ce que ça veut dire. Mes fleurs sont blanches, formées de 5 pétales qui sont libres comme l'air. Ne croyez pas pour autant que je m'envole facilement. Même si ma tête est en l'air, je suis bien ancrée au sol. Ça oui, car mes racines peuvent aller jusqu'à 1 mètre de profondeur sous terre. Bon, je dois vous avouer quelque chose. Je suis fan de mes feuilles. Elles sont trop jolies, de forme ovale. Parfois lancéolées, et leur apex, c'est le sommet, est tout pointu. En plus, leur texture est caoutchouteuse. J'adore, c'est rigolo. Et puis, je dois dire que le vert bleuté leur sied à merveille. Sur la tige, elles aiment se tenir face à face, même si elles ont tendance à s'opposer. Malgré cela, elles travaillent tellement bien. Savez-vous ce qu'elles sont capables de faire? À l'aide du soleil, elles fabriquent toute ma nourriture. Et leur petite nervure peinée se charge ensuite de la distribuer à toutes mes cellules. Un peu comme le fait votre sang, non? Mais la partie de moi que je préfère, la plus originale, c'est mon calice. Certains disent qu'il ressemble à une vessie. C'est peut-être à cause de sa forme campanulée. Ben oui, comme mon nom l'indique, mon calice est enflé. Et on peut y voir de belles lignes violettes ou rouges. Certains les comparent au vaisseau sanguin des humains, mais ces lignes ont une toute autre fonction. Je vais vous avouer quelque chose qui me fait un peu honte, mais tant pis. Au Québec, les gens me surnomment péteux. Savez-vous pourquoi? C'est parce que certaines personnes s'amusent à me faire éclater en pinçant l'orifice de ma fleur. Comme ça, ils y emprisonnent l'air, puis ils me frappent brusquement et paf. Il paraît que ça ressemble au bruit quand ils pètent. Alors qui suis-je?
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, du coup, c'est une séance qui, dans le cadre du Printemps des Poètes, qui est organisée notamment par le Foyer Rural des Petits Cailloux. Donc moi, je suis Camille Briffat, je suis metteur en scène et pédagogue de la compagnie Imbido, qui est une compagnie de théâtre sur Ispagnac. Et donc je suis là avec des personnes qui ont suivi un atelier qui était donné donc il y a une dizaine de jours dans le cadre de l'événement. Donc Gilles, Christine et Didier. Alors l'idée de cette émission radio, c'était de s'inscrire donc dans le prolongement d'un atelier qui était nommé des défis dans la gorge, avec l'idée d'aller vers une exploration de la lecture à haute voix pour entrer en relation avec des textes qui ne sont pas forcément accessibles d'entrée. Voilà, donc des poèmes. Donc on a travaillé sur deux textes en particulier, dont on va vous lire des extraits. Et sachant que, voilà, pour rappel, la lecture à haute voix n'était pas du tout l'horizon. On n'a pas travaillé comme pour un texte de théâtre une lecture à voix haute dans l'objectif de, comment dire, de rendre une présence, de rendre déjà une interprétation, mais plutôt d'utiliser la lecture à voix haute pour questionner les différentes façons de recevoir, les différentes façons de rencontrer ces textes. Voilà, un peu comme l'idée de partir à l'aventure d'une œuvre littéraire par la voix haute. Alors, la lecture à voix haute permet aussi d'aller plus loin dans la compréhension d'un texte. Souvent, on a l'impression, quand on lit quelque chose dans sa tête, de comprendre les enjeux, de comprendre de manière assez intuitive. Mais à partir du moment où on essaie de le lire à haute voix, apparaissent toutes les difficultés, en fait, toutes les choses qui sont un peu floues, qui n'ont pas été clarifiées. Et du coup, c'est intéressant, très intéressant à cet endroit-là. D'où le fait d'avoir choisi des textes qui permettent encore moins d'avoir une lecture intuitive, parce que c'est des textes qui nous décalent en fait de nos habitudes, et de manière assez surprenante, et qui nous permettent de nous rendre compte aussi de nos habitudes de lecture, parce qu'elles ne tiennent pas à partir du moment où on s'y attelle. Voilà. Du coup, alors, on va commencer par vous lire des extraits pour vous faire sentir ça. Donc les lectures, il va y avoir plusieurs lectures d'un même poème, donc des lectures avec des consignes différentes, pour justement permettre de se rendre compte de comment on reçoit ces extraits avec ces différents choix. Comment les choix qui sont faits impactent la réception, impactent le sens et de l'auditeur. Alors une petite précision quand même avant, c'est que on est vraiment sur un travail d'exploration. Ce ne sont pas des textes qui sont prévus forcément pour être lus, c'est des textes qui sont écrits. Voilà, donc nous on s'est autorisé à aller vers cet outil-là, mais voilà, je tenais à le préciser parce que ce ne sont pas des textes dramatiques de théâtre. Alors on va commencer du coup avec des extraits d'Eugène Gomringer, qui s'appelle donc son Constellation et poème concret. Pour vous dire deux mots de la poésie concrète, parce que ça surprend assez fortement à la lecture, c'est une poésie qui s'intéresse plus à la structure et qui rompt avec l'idée d'une syntaxe, avec une syntaxe tout court, et qui va privilégier du coup d'autres systèmes d'apposition, de juxtaposition de mots, pour aller vers quelque chose une relation au mot très directe, en fait. Le mot retrouve presque sa force et son individualité propre, en tout cas chez cet auteur-là, donc Eugène Gomringer. Donc on va commencer des extraits. Du coup, on va commencer avec provisoirement. Avant de commencer la lecture, je vous invite à vous mettre dans des bonnes conditions d'écoute et à peut-être même fermer les yeux pour mieux recevoir et sentir les différences entre les différents types de lectures du même poème qui vont être lus.
Provisoirement agité, provisoirement calme, provisoirement eau, provisoirement pierre, provisoirement animal, provisoirement arbre, provisoirement rouge, provisoirement bleu.
Merci. Et donc on va enchaîner sur la deuxième lecture.
Provisoirement agité, provisoirement calme,
provisoirement eau, provisoirement pierre,
provisoirement animal, provisoirement arbre,
provisoirement rouge, provisoirement bleu,
provisoirement
agité,
provisoirement
calme,
provisoirement
eau,
provisoirement
pierre,
provisoirement
animal,
provisoirement
arbre,
provisoirement
rouge,
provisoirement
bleu.
On va continuer avec un autre poème, Pic. Je vous laisse commencer.
Pic se tend, Pic se sépare, Pic sursaute, transperce.
Pic
se tend,
Pic
se sépare,
Pic
sursaute,
transperce.
Encore une autre version.
Pique.
Se tend.
Pique.
Se sépare.
Pique.
Sursaute.
Transperce.
Pique.
Se tend.
Pique.
Se sépare.
Pique.
Sursaute.
Transperce.
Alors, on va passer à un dernier poème de cet auteur. Du coup, on a essayé aussi de mettre en avant certains liens plutôt que d'autres, ou bien tantôt c'était les liens au niveau du sens des mots, tantôt c'était plutôt les retours à la ligne. Donc je vous invite à continuer d'avoir les yeux fermés pour essayer de recevoir et de voir comment, d'un extrait à l'autre, d'une lecture à l'autre, pardon, comment vous sentez, quelle différence vous sentez.
Homme, femme, femme, mère, mer, soleil, soleil, lune, lune, pays, pays, homme.
Alors je vais rajouter une lecture, merci. Tu vas faire l'effet rebond que tu faisais la dernière fois.
Homme, femme, femme, mer, mer, soleil, soleil, lune, lune, pays, pays, homme.
Du coup, c'est Didier et Christine maintenant.
Homme, femme,
femme, mère,
mère, soleil,
soleil, lune,
lune, pays,
pays, homme.
Un autre essai.
Homme,
femme, femme,
mère, mère,
soleil, soleil,
lune, lune,
pays, pays,
homme.
Et le dernier, on est tous ensemble du coup. Alors, on essaie de garder l'effet rebond, l'effet rebond. Association,
okay.
Association d'idées.
Homme, femme.
Femme, mère.
Mère, soleil.
Soleil, lune.
Lune, pays.
Pays, homme. Du coup, voilà, dans la... C'était une petite aussi, voilà, l'occasion de découvrir la poésie de Gombrinjar, où on voit bien comment le mot est détaché individuellement, et qu'il existe en tant que tel, avec son sens, avec son son, avec ses résonances. C'est une façon de chercher à redonner un poids propre et une individualité au mot, et de questionner du coup l'écriture de la poésie de façon générale, parce que c'est un auteur qui était... qui a été édité en 1954. Donc, où il y avait un moment de remise en question du quotidien, de comment on recevait la littérature par rapport à tous les événements qui venaient de se passer antérieurs.
Nous arrivons au milieu de l'émission et nous allons vous faire écouter un texte de Gerasim Louka qui s'appelle « Prendre corps » et qui a été mis en musique par Arthur H. Et ce texte a été choisi parce que ce poète, Gerasim Louka, fait un travail sur la langue très particulier. Il déconstruit dans lequel il déconstruit la syntaxe pour donner. Il cherche dans la juxtaposition des sujets et des noms au lieu de verbes une grande force, quoi.
Météorite, je te clé d'or, je t'extraordinaire, tu me
neige, tu m'oasis, tu m'oiseau, tu m'insecte, tu me cataracte. Je te lune, tu me nuage, tu me marée haute, je te transparente, tu me pénombre, tu me translucide, tu me château vide et me labyrinthe, tu me parallaxe et me parabole, tu me debout et couché, tu m'oblique. Ah. Je t'équinoxe, je te poète, tu me danse, je te particulier, tu me perpendiculaire.
Je te découvre.
tu me scelles, je te respire. Jour et nuit, je te respire. Je te bouche, je te balais, je te donne, je te griffe, je te vulve, je te paupière, je te haleine, je t'aime. Je te mains, je te sueur, je te langue, je te nuque, je te navigue, je t'ombre, je te corps et te fantôme, je te rétine dans mon souffle, tu t'irises, je t'écris, tu me penses.
Alors vous êtes toujours à l'écoute de l'émission du Printemps des Poètes. On va continuer maintenant avec un autre texte, un texte considéré comme un poème, qui est l'Énéide de Virgile, très dense cette fois, dans une traduction particulière qui est celle de Pierre Klossowski, qui est un traducteur qui a décidé de plutôt s'atteler à respecter ou du moins à donner une place au côté disloqué de la syntaxe latine. Enfin, de la syntaxe propre à la prose ou à la prosodie latine. Et du coup, ça fait une écriture qui est extrêmement difficile à déchiffrer, mais en même temps qui provoque autre chose dans son mouvement. Donc, je vous laisse découvrir avant d'en dire plus, peut-être. Et après, on y reviendra. Donc là, l'objectif de la lecture à voix haute, c'était aussi nous questionner sur... En fait, quelles sont nos représentations de ce qui est une bonne lecture, déjà ? Parce que quand on parle d'habitudes, nos habitudes de lecture, c'est des choses qu'on n'a pas forcément formalisées et comprises. Et du coup, en se questionnant sur ça, c'était voir est-ce que ça tient aussi dans un texte pareil, où notamment, par exemple, la compréhension du sens est très difficile, si on veut vraiment tout comprendre des nuances, des phrases. Et du coup, voir comment on arrive à... Quel choix on fait de lecture, déjà, et comment on arrive à partir de là à trouver un choix... Enfin, c'est-à-dire que le choix reflète ce qu'on a envie de mettre en avant du texte. Donc, il n'y a pas de... Là, dans les essais qu'on a fait sur les textes, les extraits de Grominger, il n'y avait pas vraiment de... Il y a eu des essais qui ont été gratuits au début, mais en fait, l'idée, c'est que chaque choix cherche à représenter quelque chose ou à souligner quelque chose. Donc là, par exemple, dans les changements de voix que vous avez entendus, une voix qui change correspond à un passage à la ligne, correspond à un décalage dans le texte, correspond à une répétition qui se retrouve et donc insiste sur la répétition d'un mot. Et du coup, tous ces choix cherchent à éclairer de manière différente et doivent être assumés en tant que tels aussi. Et du coup, face à un texte comme la traduction de l'Énéide de Virgile, de Klossowski, ben, se pose cette question-là, qu'est-ce qui tient en fait de comment on a l'habitude de faire. Et donc, en faisant des essais différents, on arrive petit à petit, intuitivement, à sentir ce qui se joue dans l'écriture d'un tel texte. Voilà. Alors, on va vous lire un extrait très court. Enfin, court. Alors, le texte fait... c'est à peu près 13 chants qui sont là traduits par chapitre ici. Donc, 400 pages pour l'édition des 33 morceaux, qui est l'éditeur de cette traduction. Donc là, nous, on va vous lire vraiment juste même pas une page, un tout petit extrait, pour que vous sentiez l'intérêt de cette langue. Alors, donc juste pour remettre en contexte, l'Énéide de Virgile, c'est un récit épique et qui relate donc le départ d'Énée suite à la destruction de la ville, à la guerre de la ville de Troie, en fait, où le moment où le cheval de Troie est entré et où les Troyens se font massacrer. Donc lui arrive à s'échapper avec quelques personnes et cherche une terre pour pouvoir vivre, en fait, pour être accueilli et orienté par les dieux. Il est à la recherche de l'Italie où il s'installera et fondera Rome au bout d'un, après ses périples, nombreux périples. Donc l'extrait que nous allons vous lire, il fait partie du chant 1 ou chapitre 1 ici, sachant que donc il y a des références aussi qu'il faut accepter de pas forcément comprendre pour se laisser porter par l'écriture. Juste pour remettre un tout petit peu en contexte quand même, donc le héros donc Énée est très impacté par la rage de Junon, femme de Zeus, la déesse. Oui, c'est une déesse, bien sûr. Oui, une précision importante. Et du coup, elle veut le détruire parce que elle a lu, lui a été relaté que dans un futur lointain, ce peuple-là allait détruire la ville de Carthage, qu'elle soutient très fortement et qui est un peu sa. Qui est choyée par elle. Voilà. Donc, du coup, elle essaie de les détruire et de les arrêter dans leur fuite. On va commencer, alors, par la lecture, déjà. Une lecture dont l'objectif, la consigne, c'était simplement de comprendre ce qu'on dit au maximum, du coup, faire comprendre, donc en se focalisant sur uniquement le sens.
Telle pensée retournée de la déesse en son cœur enflammé, la cheminée au pays natal et des orages, lieu fécond en souffle furieux, en Éolie. Là, dans l'antre vaste, le roi Éole, de son pouvoir, réprime et tient au cachot enchaîné, vent subversif et tempête sonore. Indignés, ceux-là, d'un violent murmure, font retentir le mont et grondent aux portes. Trônant au sommet, Éole de son spectre dompte leur humeur et règle leur colère. S'il ne le faisait, les mers et les terres et le ciel profond, certes, ils emporteraient rapides et les disperseraient dans les airs. Mais le Père Tout-Puissant les a scellés dans des cavernes ténébreuses, redoutant pareille catastrophe, une masse faite de hautes montagnes, à poser dessus. Un roi leur a donné qui, selon un pacte certain, sache freiner ou relâcher les rênes au moment voulu.
Là, on a essayé après, ensuite, on a essayé différentes façons de le lire. Donc déjà, arriver à le lire pour le faire comprendre, ça prendrait beaucoup de temps aussi, et ça demanderait de beaucoup décortiquer. Du coup, on a fait le parti pris d'essayer aussi d'autres pistes qui ne sont pas forcément dans cette attente-là, pour donner à voir comment aussi on peut recevoir, en acceptant de ne pas tout comprendre, comment on peut recevoir des mots qui s'entrechoquent et ce que ça provoque aussi par rapport à ce qui est en train de se passer dans le texte. Parce qu'il faut dire qu'un texte, une épopée, donc ce que c'est un récit épique, l'idée, ce n'est pas de raconter une action qui s'est passée, mais plutôt de l'imiter. C'est comme si quelque chose était en train de se passer dans le récit, pendant le récit lui-même. Voilà, ça cherche plutôt à nous mettre au cœur de l'action. Et du coup, on peut se questionner sur ça, notamment dans nos pistes. Donc on va vous lire d'une autre façon. Je vous laisse prendre quand vous êtes prêts.
Telle pensée retournée de la déesse en son cœur enflammé. La cheminée au pays natal des orages. Lieu fécond en souffle furieux, en Éolie. Là, dans l'antre vaste, le roi Éole de son pouvoir réprime et tient au cachot enchaîné vents subversifs et tempêtes sonores. Indignés, ceux-là, d'un violent murmure, font retentir le mont et grondent aux portes. Trônant au sommet, éole de son sceptre, dompte leurs humeurs et règle leur colère. S'il ne le faisait, les mers et les terres et le ciel profond, certes, ils emporteraient rapides et les disperseraient dans les airs. Mais le Père Tout-Puissant les a scellés dans des cavernes ténébreuses, redoutant pareille catastrophe. Une masse faite de hautes montagnes a posé dessus, un roi leur a donné, qui, selon un pacte certain, sache freiner ou relâcher les rênes au moment voulu.
Et du coup, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu le choix que vous avez fait? Parce que donc Gilles et Christine ont travaillé ensemble à essayer à trouver une entrée, donc une consigne de même. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce choix?
Alors on a voulu faire ressortir les éléments, tout ce qui est toute la violence qu'il y avait dans le texte, donc à dire ensemble tous les mots qui exprimaient cette violence, les phrases, les parties du texte, davantage pour donner l'énergie de ce texte-là.
Et quand Didier a lu son texte pendant la répétition, notre travail, la différence entre nos deux textes, la lecture de nos deux textes a été frappante. Moi, j'ai fortement imaginé un oracle qui est en train de parler. Et ça nous a plu, à Christine et moi, cette façon de dire le texte. Plus que de faire comprendre, faire ressentir l'émotion qu'il peut y avoir.
L'émotion et le côté flux, qui ne s'arrête pas,
oui,
qui est perçu par ta voix à toi, Gilles, que tu ne t'arrêtes pas.
Oui.
Et il y a quelque chose qui se prolonge et qui arrive et qui, arrive, qui ne peut pas être intercepté, mais par contre dont on arrive à extraire. En fait, ce qui est intéressant dans cette proposition, c'est des choses qu'on peut aussi ressentir à la lecture, des fois des mots qui ressortent plutôt que d'autres.
Oui. Oui.
Parce que je rappelle que le texte n'a pas été écrit pour être lu, mais écrit pour être lu, pardon, pour être dit, mais écrit pour être lu. Et du coup, c'est une expérience de lecture que vous essayez de retranscrire. Voilà. Est-ce que je peux vous proposer de faire un test? On verra ce que ça donne. De le lire un peu plus vite pour toi, Gilles. Pour justement, oui, garder ce côté, ça c'est en train de se passer.
Fluidité.
Et pour toi de t'autoriser, improviser sur ce que tu as, moment où tu as envie de venir, moment où tu as envie de lâcher, okay, et de ne pas forcément te tenir à ce que tu as décidé,
okay,
à l'avance.
Telle pensée retournée de la déesse en son cœur enflammé, l'acheminée au pays natal des orages, lieu fécond en souffle furieux, en éolie. Là, dans l'antre vaste, le roi Éole de son pouvoir réprime
son
et
pouvoir
tient au cachot enchaîné vent subversif et tempête sonore.
Et tient au cachot enchaîné.
Indigné, ceux-là, d'un violent murmure, font retentir le mont et grondent aux portes, trônant au sommet Éole de son sceptre, dompte leurs humeurs et règle leur colère. S'il ne le faisait, les mers et les terres et le ciel profond, certes, ils emporteraient rapides et les disperseraient dans les airs. Mais le Père Tout-Puissant les a scellés dans des cavernes ténébreuses, redoutant pareille catastrophe, masse faite de hautes montagnes posées dessus. Un roi leur a donné, qui, selon un pacte certain, sache freiner ou relâcher les rênes au moment voulu.
Voilà, c'était une petite découverte de cette œuvre. Si ça vous intéresse, du coup, donc je répète, elle est dans la collection des 33 morceaux. Et je voulais juste partager des notes du traducteur que je trouve intéressantes. Donc, quand il... Alors, je le cite... toujours dans ce questionnement de qu'est-ce qu'on rend, qu'est-ce qu'on donne à voir, qu'est-ce qu'on donne à entendre, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant dans un texte, quel choix on fait quand on le lit et quand on le partage. Le mouvement vrai n'est pas dans l'action, mais dans la mélodie interne, le tableau dans les accords et dans les images contrastées, mais les images elles-mêmes jaillissent du choc des mots, non pas en ce qu'ils désigneraient quelque chose, mais en ce que les syllabes, d'un mot à l'autre, se heurtent ou copulent pour une valeur de coloris ou de sonorité. Et il parle aussi du heurt que produit la richesse sonore et le prestige de l'image. Et on sent bien, donc dans l'ensemble du livre, on sent vraiment qu'il y a des moments où on perd pied, on est pris par un flux de mots dont on ne distingue pas forcément la cohérence, et des moments où d'un coup une image, une tempête, il y a des choses qui arrivent à nous parvenir, qui arrivent à s'affirmer très fortement, ponctuellement. Voilà. Voilà, c'était l'objectif de vous faire essayer de rentrer dans cette exploration d'un texte, comme ça, en une séance collective. Nous arrivons à la fin de l'émission. Donc, je vous invite à aller voir le programme. Les événements continuent autour du Printemps des Poètes ce week-end et même la semaine prochaine aussi. Donc, il y a des ateliers samedi, dimanche aussi, et il y aura une projection par la Nouvelle Dimension mardi prochain.